le Lab U. Numéro spécial hors les murs sur le 101.fm de Radio U.
Bonjour, je m'appelle Arnaud Hibert, je suis maître de conférence en histoire de l'art et archéologie médiévale à l'Université de Bretagne Occidentale. Nous nous situons à la pointe Saint-Mathieu, qui est située aujourd'hui sur la commune de Plougonvelin, qui c'est une pointe qui marque le nord-ouest de la rade de Brest. Et cette pointe a une longue histoire, une histoire millénaire, puisque il s'y trouve une abbaye qui était aussi un lieu de pouvoir. Il y avait un château et peut-être un port. Et tout ça, nous cherchons à l'étudier, voire à le redécouvrir.
Un port ou un portus ? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un portus ?
Ah, un portus, c'est une question un peu difficile, parce que derrière la réalité latine, la question qui se pose, on aimerait traduire ça par port, c'est à quoi ressemble un port à l'époque médiévale ? Et là, malheureusement, on manque d'éléments. C'est un lieu qui est à mentionner dans les textes, ce qui veut dire que c'est un lieu qui a une réalité spatiale. Est-ce qu'il se matérialise par des quais, comme on l'imaginerait, des anneaux et des pontons ? Ça, certainement pas. En tout cas, c'est un lieu où des bateaux peuvent s'arrêter, ça c'est sûr. Et c'est un lieu qui est identifié comme tel, puisqu'il est cité. Nous nous trouvons dans le musée de la Pointe Saint-Mathieu, qui est le musée de site géré par l'association des Amis de Saint-Mathieu. C'est un musée qui présente en diverses salles l'histoire du site, quelques objets qui en proviennent, notamment un élément de calvaire qui provient de la paroisse, date du XVIIe siècle, et différents éléments de pierre, de mobilier lapidaire qui appartenaient avant à l'abbatiale, qui sont désormais déposés. Il y a une grande maquette qui donne à l'état de l'abbaye vers 1500. Et puis après, il y a diverses collections un peu plus éparses d'éléments qui peuvent... d'une croix qui était alto-médiévale en pierre et aussi un peu de mobilier de fouille retrouvé de ci, de là, dans la commune de Plougonvelin. Nous restons vraiment un petit peu dans l'inconnu concernant le site, puisque la première mention de celui-ci date des années 1150, et c'est une source arabe, c'est Al-Idrissi, qui nous parle d'une ville portuaire avec de riches marchands, mais il ne parle pas d'abbaye. Donc 12e, 13e, vous voyez, on n'a pas grand-chose. On conserve des textes à partir du 13e siècle. Si un objet qui devait peut-être montrer ce que pouvait être l'abbaye à cette époque, c'est cette réplique de la croix pectorale de l'abbé. Cette croix est un petit peu énigmatique, stylistiquement parlant, elle renvoie à des modèles plutôt du haut Moyen-Âge. Cette croix, pour l'instant, est un élément qui mériterait d'être réétudié d'un point de vue artistique. En tout cas, de prime abord, comme ça, il y a une stylisation très romane dans les lignes et puis une forme d'inspiration insulaire dans les motifs qui ne sont pas du tout tirés de l'antique, qui sont très plats et très couvrants.
On parlait tout à l'heure de la première mention de la pointe Saint-Mathieu, donc, qui date, vous le disiez, d'un texte d'Al-Idrissi. Sur quel type de document vous travaillez justement pour formaliser votre hypothèse sur le portus de Saint-Mathieu ?
Alors, il y a plein de sources différentes, ce sont des sources lointaines, parce qu'il faut savoir que le chartrier de l'abbaye est très pauvre. Il a en grande partie disparu à la Révolution et dans la première moitié du XIXe siècle. Donc on se fonde surtout sur des personnes qui parlent de Saint-Mathieu. Et donc Saint-Mathieu est un lieu de passage. C'est un lieu de passage obligé en bateau qui est situé à l'entrée du chenal du Four. Tous les bateaux d'Europe, si on peut dire, étaient obligés d'y passer avant le XVe siècle, dans un goulot qui fait 3 km entre Saint-Mathieu et l'île de Béniguette. Et donc, ce goulet est un lieu propice à la piraterie, puisque on sait que tous les marchands vont y passer. Ces marchands, lorsqu'il leur arrive un péril, eh bien, ils se plaignent à une autorité, en l'occurrence souvent le roi d'Angleterre. Or, les archives anglaises sont très très bien conservées. Donc, dans les différents rolls anglais, eh bien, on trouve des mentions de marchands qui se plaignent que leur cargaison a été attaquée, qui se plaignent de diverses choses, de différents naufrages, enfin, différents périls. Et donc, ça donne une centaine de mentions à travers cela du port. Vous voyez, c'est une mention très indirecte, du portus de Saint-Mathieu.
Est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve et nous décrire l'endroit où on se trouve ?
Oui, on se retrouve à la croisée de l'église abbatiale de Saint-Mathieu. Et devant nous, il y a la nef, privée de toit depuis au moins l'époque moderne. Le chevet plat, qui est encore couvert de ses voûtes. Le brassu du transept qui nous cache la mer, et de l'autre côté, dans le bras nord, un trou béant qui ouvre aujourd'hui sur l'ancien cloître.
Est-ce que vous pouvez nous localiser un peu l'abbaye au niveau de la pointe Saint-Mathieu ? Où est-ce qu'on la trouve ?
Oui, alors l'abbatiale se trouve directement, alors on va dire, on est à peu près à 5 km du Conquet, au sud du Conquet. Et à la pointe est circonscrite par les rochers, les Rospec, puis Berthaume, à peu près, qui est à 800 mètres d'ici. Et de l'autre côté, eh bien, s'ouvre la côte jusqu'au Conquet, avec différents sites, la dangereuse pointe de Penzer, mentionnée sur toutes les cartes marines, les ports potentiels de Porsfrigen, de Porsogan, qui sont aussi au nord d'ici, et puis enfin le Conquet.
Est-ce que vous pouvez nous imaginer pour nous à quoi devait ressembler cet endroit au XIIIe siècle ?
Alors, au XIIIe siècle, proprement dit, ce n'est pas forcément le plus facile, mais si on se plaçait en 1300, tout début du XIVe siècle, alors vous auriez ici un chevet qui se prolongeait par une chapelle axiale, qui présentait un coude. Nous serions présentement dans le chœur des moines, dont la clôture de chœur nous entoure, entre les piliers. Nous aurions devant nous l'autel principal, avec le sanctuaire qui s'ouvre là. Les murs n'auraient pas les mousses qu'ils ont actuellement, ils seraient peints en blanc avec des décors de faux joints rouges. Et même, on peut penser que devant nous, sur ces murs, il y aurait des anges peints, puisque les quelques épaves, si on peut dire, de ces enduits nous le laissent supposer. De l'autre côté, dans la nef, eh bien, les murs seraient cachés avec le même enduit, parce que ces murs sont plus anciens et donc ils avaient été mis au goût du jour par ce décor. À l'endroit où nous nous trouvons, eh bien, nous pourrions apercevoir le cloître derrière nous avec ses galeries courtes, faites avec toutes blanches, pour les colonnes et les chapiteaux qui les portent, avec au centre, eh bien, un jardinet. Voilà.
Est-ce que, encore ici, vous pouvez nous indiquer quels indices viennent conforter l'hypothèse d'un portus à Saint-Mathieu ?
Alors, au milieu de l'abbatiale, pas grand-chose, mais les indices d'un portus à Saint-Mathieu, surtout, outre les textes médiévaux, c'est la toponymie ancienne, bretonne, prise surtout dans le cadastre napoléonien, qui nous indique des dizaines de lieux d'échouage potentiels, appelés des porces. Ce qui nous indique aussi la présence ici de ce portus, eh bien, c'est que l'abbatiale a été construite en partie avec des roches lointaines.
Est-ce qu'on peut justement se déplacer vers ces zones-là ?
Oui, si vous voulez. Parmi ces roches lointaines, utilisées dès le XIe siècle pour les parties architectoniques du bâti, il y a le microgranite de la pointe du Cador, qui vient de Presqu'île de Crozon, qui a donc fait à peu près 26 km en bateau pour parvenir jusqu'ici. Plus lointainement, arrivent à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, des calcaires. Alors on ne sait pas bien d'où ils viennent, ces calcaires, pas de Bretagne, c'est sûr. Ce sont des calcaires bajossiens. Ils peuvent venir de Normandie, ils peuvent venir de Vendée, ils peuvent venir de Charente. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans le transport de la pierre, ce qui coûte cher, c'est le transport terrestre. Donc, la logique voudrait que le lieu de débarquement soit le plus proche possible de l'abbatiale, parce que autrement les coûts s'en voient si significativement augmentés.
C'est beau calcaire ça. Vous voyez, il y a encore les traces d'outils, c'est émouvant. Hein,
traces de hache, traces d'hache à pierre, la laie qu'on appelle. Vous voyez.
On sait de quand elles datent ces traces
Oh ben, le calcaire ici, c'est début 13e. Pourquoi 13e? Parce que c'est un tas de charges dont les différentes nervures fusionnent relativement bien en restant accolées. Ça, c'est absolument caractéristique du 13e. C'est le profil qui est rond et pas encore prismatique. C'est l'usage du calcaire qu'on retrouve sur le site vraiment au 13e et la comparaison formelle avec certains chapiteaux dont le feuillage est vraiment des années 1210-1220. Quoi. On peut regarder là. Voilà alors les feuilles accrochées là qui sont comment dire un petit peu sèches dans leur ligne avec des arêtes qui se finissent de manière lisse et dont on voit que les crochets ont été cassés. Ces abacs ici qui forment deux temps en ressaut et un léger talon, ça bon là c'est très début 13e dans son écriture plastique quoi.
La présence d'une abbaye sur la pointe Saint-Mathieu, qu'est-ce que ça dit du pouvoir qui est exercé ici, de l'économie qui pouvait y avoir ici, dans cette zone?
Bah, justement, la présence d'une abbaye, c'est quelque chose qui est souvent difficile à interpréter, parce que pendant très longtemps, on est resté dans l'idée, et ce qui n'est pas complètement fausse, les moines, notamment les moines bénédictins, cherchaient à vivre au désert. C'est-à-dire, au désert, ça veut dire s'éloigner du monde et de ses turpitudes pour retrouver au fond des forêts profondes, dans les lieux isolés et sévères, eh bien, pouvoir faire un travail d'introspection, retrouver en fait un lien direct avec Dieu. Et puis se couper en fait de ces plaisirs qui vous détournent, plaisirs du monde qui vous détournent en fait des véritables réalités spirituelles. Bon, ça c'est la vision qu'on trouve dans les textes, qui est parfois un peu romantique, parce que la réalité d'une communauté de 20, de 10, 20, 30 moines, c'est des gens qu'il faut réussir à faire bouffer, qu'il faut réussir à nourrir à longueur d'année, à vivre quelque part, surtout dans un lieu isolé, ben, ça pose des problèmes d'approvisionnement en eau, d'entretien, simplement. Et donc les éléments pragmatiques font que peu de lieux monastiques sont isolés. Et puis après, il y a une autre logique, c'est qu'une abbaye, c'est une structure administrative, c'est un lieu de pouvoir, et donc les lieux de pouvoir s'installent généralement dans des emplacements stratégiques.
Est-ce qu'il y a d'autres traces qui pourraient indiquer qu'il y a eu des voies commerciales, des échanges commerciaux dans cette zone ?
Oui, il y a des routes qui sont conservées actuellement, qu'on voit également sur les cadastres, qui donc sont en effet des traces d'échanges pas toujours facile à dater, mais en tout cas nos collègues antiquisants qui ont travaillé sur les voies romaines, notamment à partir d'un document qui est très très célèbre, qui s'appelle la table de Peutinger, qui donne en gros une carte du monde antique, en faisant l'hypothèse très solide de l'identification de l'emplacement de carrés, on déduise par rapport à la composition de la carte, à son organisation, que le bout de cette carte, dans un lieu qui s'appelle Jésus-Cribat, excusez-moi, pourrait être Saint-Mathieu. Donc en fait, que Saint-Mathieu serait peut-être le port ou le point terminal de cette table de Peutinger.
On va jusqu'aux rampes ?
Oui. On se retrouve à Porz-Frijan, donc en breton le port aux frisons, qui est à côté de Porz-Manac, le port aux moines, à environ 700 mètres au nord de l'abbatiale. La grève de Porz-Frijan, qui est couverte de galets, ces galets sont beaucoup moins abondants depuis que les Allemands s'en sont servis pour la construction du mur de l'Atlantique. Mais ces galets étaient très importants pour les bateaux, de même que le sable, parce que ça permettait d'y poser une ancre, voire pour les bateaux relativement à fond plat sur le sable, en tout cas ils arrivaient, ils partaient en fonction des courants, poser le bateau sur le sable, et donc ça permet d'arriver à la côte, alors que quand il y a des rochers partout, bien ni ancre ni ni coque ne peuvent s'y poser. Alors, au XIIIe siècle, pour l'instant, c'est très très dur à dire ce à quoi ça ressemblait. Les rochers, a priori, n'ont pas dû beaucoup évoluer parce que ces côtes, les côtes de Gneiss, eh bien, ont tendance à être relativement stables. Le niveau de la mer devait être, a priori, 70 cm en dessous du niveau actuel, donc ça n'avait pas changé grand-chose. Est-ce qu'il y avait déjà un davier comme on le voit au-dessus? Rien n'est moins sûr parce que les daviers sont répertoriés mais ils sont souvent mal connus en termes d'archéologie. Quant au château, il devait exister au 14e, 15e siècle. Existait-il déjà au 13e siècle? Ça, pour l'instant, ce château, pour tout vous dire, on l'a dans les textes tardifs, 14, 15e. On l'a dans la toponymie, il s'appelle Castelcose, il y a aussi Castelbian. Et puis on a des relevés LIDAR, donc c'est-à-dire des relevés de micro-topographie faits par avion qui nous indiquent les enceintes de ce château. Mais pour l'instant, on n'a pas vu la moindre pierre de celui-ci.
À quoi elle servait cette rampe à l'époque ?
Alors on peut penser que c'était un lieu d'accès à la mer qui permettait de charger et décharger la cargaison des bateaux.
Ça renforce l'hypothèse d'un portus ? En quoi ça pourrait la renforcer ?
C'est-à-dire que à l'époque médiévale, les gréements étant relativement petits, finalement des lieux assez inhospitaliers, peu larges, et bien peuvent suffire à un bateau pour se poser, pour accoster. Surtout qu'il faut bien prendre en considération qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les bancs de sable, enfin les zones de galets, les zones de sable, donc propices au fait de pouvoir jeter une ancre ou de se poser sur le fond, étaient bien plus nombreux.
Le Lab U.
Que là tu as un lieu de mouillage qui est authentifié par les cartes marines, qui est même décrit dans des textes, mais 17e, 18e. Tu as des éléments probants qui ont été retrouvés d'un point de vue par des plongées. Le seul truc, c'est que Port-Slogan, c'est quasiment à l'entrée du Conquet, quoi. Donc ce serait quand même bizarre. Là, pour le coup, avoir deux ports qui sont côte à côte, ça serait complètement.
Ça me semble impossible.
Moi, ça me semble très étrange. Ouais. Là, c'est la pointe de Penzer, donc c'est un peu après encore. On va arriver.
Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment ça s'est passé, les plongeurs, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qui a été identifié ?
Les plongeurs en question, les plongeurs qui ont travaillé ici, c'était vraiment au début des années 60, c'était le docteur Guilherme, et c'était des plongeurs amateurs. Ils ont... En partant de sources anciennes et de mentions, ils pensaient qu'à Port-Slogan, il y avait, par une étude toponymique notamment, ils pensaient qu'il y avait peut-être un port. Et donc, ils ont scruté le fond de l'eau, ils ont dégagé beaucoup d'algues, beaucoup de laminaires, et ils ont fini par trouver des pierres plates, des sortes de dalles. Alors évidemment, quelques-unes, pas forcément jointives, ils ont fait des dessins, ils ont retrouvé une encre par contre. Alors pas une encre comme vous imaginez, comme on voit avec Popeye, ou l'encre 17e, non, une sorte de pierre trapézoïdale avec avec une accroche à l'intérieur pour faire passer une corde. Et ils ont fait une notice de 4-5 pages avec des dessins manuscrits, quoi, dessins à la main. Ils ont situé le lieu où il avait découvert par rapport à une maison qu'on voit plus dans le paysage. Mais bon, le dessin est quand même suffisamment précis pour retrouver à peu près le lieu. Et il s'avère qu'un plongeur de l'université a plongé récemment et a retrouvé certainement une ou deux de dalles décrites par un des membres du groupe Port, Hubert Michéa, à partir d'images satellites. A vu des formes anthropiques dans l'eau, notamment des angles, des orientations, enfin des lignes droites qui allaient contre l'orientation naturelle du platier, des éléments qui laissent penser qu'il y a un aménagement.
Par contre, évidemment, c'est complètement balbutiant parce que un aménagement anthropique, il peut très bien être 1830, 2000 ans avant Jésus-Christ, et ou 1312, quoi. Bon, donc, Port-le-Gand, par son nom, par sa disposition, est un site possible. Il y a aussi des hypothèses qui font que c'est pas forcément pour moi le site prioritaire.
Et ça serait quoi alors le site prioritaire ?
C'est celui où on était tout à l'heure, c'est-à-dire Port-Strigane. Pour moi, c'est Port-Strigane qui est le plus logique parce qu'il est au pied du château. Donc il y a le lieu d'accostement a directement un point de contrôle et un point de fortification. Parce que à côté de Port-Spanac, juste à côté, il y a de l'eau. Parce qu'il y a la rampe qui est restée, donc qui a été fréquentée quand même. On n'en voit pas partout des rampes comme ça. Alors qu'il y a des daviers absolument partout. Ce qui veut dire que c'est un aménagement qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup plus, qui a été beaucoup plus pérenne certainement, qui a demandé beaucoup plus d'investissement. Donc tout ça fait que moi, si dès qu'on pourra aller plus loin pour les investigations sous-marines, j'aimerais bien commencer à Port-Strigane. Mais bon, on l'a pas encore vu le port.
On sait que les conditions d'accès à cette partie de la côte, elles sont pas simples. Elles sont pas simples à l'époque non plus. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces conditions d'accès ? Quelles sont-elles, ces conditions météorologiques un peu particulières de cette partie de la côte ? Et pourquoi, malgré tout, ça pourrait quand même être un lieu de passage, en fait ?
Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que jusqu'au 14e siècle, milieu du 14e siècle pour les Italiens et 15e pour les autres, les bateaux sont obligés de caboter. Donc ils longent les côtes. Les cartes marines, enfin du moins les indications marines, ne sont pas terribles. Elles ne sont pas précises quand il y en a. Les instruments de navigation sont extrêmement balbutiants. Et donc les marins naviguent à vue. Ils longent les côtes et en plus, les gréements étant petits, ils s'arrêtent régulièrement pour ravitailler. De fait, tous les bateaux qui vont du nord au sud de l'Europe longent les côtes bretonnes. Alors, il s'avère que en longeant les côtes bretonnes, ils ont besoin de s'arrêter. Et en particulier, il y a des points qui sont particulièrement difficiles à franchir. C'est le cas du chenal du Four, parce que les courants, il y a énormément de rochers. Les courants, ils sont très forts, et puis il y a des zones qui sont carrément infréquentables. Par exemple, passer au large d'Ouessant, ça relève, compte tenu des gréements, quasiment de la mission impossible. De fait, les bateaux sont obligés de passer au ras de la côte, et pour ce faire, les courants étant tellement forts, ils sont obligés d'attendre que les courants soient dans le bon sens. Il faut que le vent soit favorable aussi, donc dans le sens du courant. Il faut que la marée soit à un moment propice et que le temps soit relativement agréable. Si on met toutes ces conditions bout à bout, il est clair que les bateaux ne peuvent pas passer souvent. Donc il leur faut attendre à des endroits le fait de pouvoir passer. D'où la présence de ports. Alors ces ports, on en connaît quatre vraiment. Le long du littoral du Finistère, il y a Pamar, il y a Camaré, il y a Saint-Mathieu, il y a Le Conquet. Il s'avère que il est très difficile d'envisager que les bateaux puissent faire la distance qui sépare le Ratzin du chenal du Four en une marée. En clair, il semble extrêmement difficile qu'ils puissent passer, qu'ils aient dans le même voyage sans faire un arrêt les conditions favorables, enfin successivement, le chenal du Four et le Ratzin. Donc ils sont obligés de ça, ils sont clairement obligés de s'arrêter à un moment. Et ça fait tout l'intérêt de la pointe Saint-Mathieu. Alors par ailleurs, il y a quelques mentions qui laissent supposer que le droit de bris et les taxes qui sont prélevées sont particulièrement rentables, jusqu'à ce que le trafic puisse contourner la zone. On peut penser que le port est très actif à partir du XIIe siècle, et ce jusqu'au XVIe-XVIe. Alors les raisons qui font qu'il est actif à ce moment-là, c'est que d'abord à partir du XIe siècle en Europe, il y a une véritable renaissance du commerce. Commerce qui s'intensifie au cours du temps, XIIe, XIIIe, et puis bon, le mouvement connaît des alternements, mais continue encore, en tout cas le XIIIe est une période où déjà le commerce est très intense. Ensuite, le changement de conditions, des conditions maritimes, enfin des conditions des gréements à l'époque moderne, rend les ports d'échouage beaucoup moins intéressants. Les bateaux sont beaucoup plus gros, il leur faut des ports avec beaucoup plus d'eau. Et donc Saint-Mathieu, clairement, est certainement pas adapté aux réalités de la navigation moderne. Donc ça peut venir borner son utilisation. Naissance du commerce et changement des conditions de navigation. À partir du 15e, donc, les bateaux peuvent beaucoup plus s'éloigner des côtes. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les grandes expéditions qui ont lieu à partir du début du 15e siècle avec les Portugais. Donc on a plus, les bateaux cabotent plus. Il y a aussi le fait que certaines sources de revenus se tarissent aussi. La pêche, par exemple, à partir du 15e siècle, commence la pêche à Terre-Neuve. Donc la pêche côtière, qui était une grande source de revenus pour la pointe nord, certainement, eh bien, est beaucoup moins important. Voilà. Et ce qui fait que dans les bulletins de naissance, baptême, mariage et sépulture, à la paroisse de Saint-Mathieu au XVIIIe siècle, il n'y a plus qu'un seul marin qui est cité parmi les habitants. Et on a plutôt des petits artisans et des paysans, quoi. C'est la terre qui a repris le dessus.
Actuellement, il y a un travail qui est mené pour pouvoir monter des fouilles, pouvoir pousser un peu plus loin ces hypothèses autour de la pointe Saint-Mathieu. Comment ça se passe, ce projet-là ? Comment c'est mis en place ?
Alors, il faut savoir que des fouilles se font jamais au hasard, parce que fouiller un site, ça veut dire enlever des terres et les enlever de manière définitive. Donc, quand on fouille un site, il faut savoir que l'on exploite des preuves archéologiques, mais qu'on détruit en partie en même temps. Donc, avant de faire des fouilles, il faut d'abord avoir une excellente raison de les faire, et c'est-à-dire pouvoir prouver que la fouille apportera des éléments de connaissance essentiels concernant le site et en même temps concernant d'autres sites. Et puis, il faut prouver également que cette fouille va être nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour réussir à acquérir ces connaissances. Donc tout commence par passer en revue tous les éléments de connaissance qui ne sont pas destructifs. Et ça, on l'a fait depuis 4 ans. On a fait tous les relevés pierre à pierre de l'abbatiale. On a fait des prospections géographiques pour essayer de trouver le port. On a fait tout le bilan des archives. On a consulté ces archives. Et de tous ces éléments-là, eh bien, on a fait un colloque en 2019 qui va bientôt sortir. Ce colloque a mis en lumière des faits nouveaux. Il a permis parfois d'avancer des hypothèses crédibles et il a aussi révélé des zones d'incertitude. Et si désormais, maintenant, on est certain que les fouilles seraient un moyen pertinent, mais évidemment, tant qu'on n'a pas fouillé, on ne peut pas savoir si c'était le cas ou pas, de pouvoir acquérir des connaissances solides et nouvelles concernant la pointe Saint-Mathieu.
Qui travaille sur ce projet actuellement ?
Alors actuellement, nous sommes entre 20 et 30 personnes à travailler sur la pointe Saint-Mathieu. Il y a beaucoup d'historiens, il y a des historiens des fortifications, il y a des historiens des églises, il y a des archéologues, il y a des géographes spécialistes du milieu marin, des géographes spécialistes des SIG, il y a des géologues. Il y a également des marins qui, par leur expérience, nous permettent de comprendre un petit peu, de manière un peu expérimentale, quelles pouvaient être les conditions au XIIIe, XIVe, XVe siècle d'habitat sur le site. Et donc, toutes ces spécialités cumulées s'ajouteront plus tard, s'y agrégeront des spécialistes de sciences dures pour tout ce qui relève de l'archéométrie. Eh bien, c'est fort de cette grosse équipe que nous espérons réussir à percer les secrets de la pointe Saint-Mathieu.
Le Lab U. Numéro spécial hors les murs sur le 101.fm de Radio U.